Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heures de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la toute la semaine, nous recevons Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, une chaîne privée qui émet depuis Kinshasa. Bonjour Ambroise Mamba.
Bonjour Guy Maté, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza, présidente de la société civile du Sud Kivu, elle est chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Bonjour au Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza.
Oui, bonjour Guy Maté, je salue les autres débatteurs.
Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaombo Soucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Bonjour Timothée Tchaombo Soucha.
Bonjour cher Guy, bonjour Ambroise et madame... Merci à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue de l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation d'Ambroise Mamba. Il est journaliste à Congo Web Télévision, une chaîne privée qui émet depuis Kinshasa. Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza, présidente de la société civile du Sud Kivu, elle est chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaombo Soucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir les révélations de Nicolas Kazadi, déclaration des principes RDC-Rwanda, enjeux et bénéfices pour la RDC, et enfin, multiplicité des médiateurs dans les différents processus de paix, avec cette question, pour quelle issue favorable pour les retours de la paix en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'élection du nouveau pape de l'Église catholique. En effet, le 267e pape de l'Église catholique est élu par les cardinaux réunis au Vatican depuis le mercredi. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, c'est lui le nouveau pape au nom de Léon XIV. À l'issue du deuxième tour du conclave, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine jeudi 8 mai, signe que les cardinaux ont élu un nouveau pape. Le signe a été donné après 4 tours de vote, soit 2 jours de conclave. Des milliers de fidèles étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre pour célébrer l'événement. Ambroise Mamba, élection du nouveau pape de l'Église catholique, que vous inspire cet événement?
Bon, c'est un événement important pour l'Église catholique. Personnellement, je ne suis pas catholique, mais j'estime que il y avait quand même un Congolais qui était là. Le cardinal Ambongo, on le soutenait, même s'il y a eu une sorte de controverse en interne ici au Congo. Mais je trouve que c'était quand même bien que le Congolais Ambongo passe, mais malheureusement, il n'est pas passé. Alors, mais pour celui qui est passé, je pense que c'est très important ce qu'il a dit quand même ce matin. Il a déploré le fait qu'on a observé, il observe un recul par rapport à la foi et au profit de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Et je pense que ça, c'est interpellateur. Ça peut interpeller les Congolais que nous sommes. Ça peut interpeller l'Église catholique, les prélats catholiques ici au Congo, parce qu'on a déploré l'activisme un peu politique des prélats catholiques congolais. Et si le nouveau pape arrive à commencer quand même son ministère avec cet appel, je pense que c'est interpellateur pour notre pays, afin que la foi puisse prendre les dessus sur l'argent, le pouvoir et le plaisir.
Merci, Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, Robert Francis Prévost, pape Léon XIV. Quelles pourraient être les attentes des Africains vis-à-vis de ce nouveau pape de l'Église catholique, Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza?
Oui, merci beaucoup. Pour moi, c'est, en tant que catholique pratiquante, c'est un motif de rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu, pour l'élection du pape, parce que on attendait cela après la mort du regretté François. Il nous inspire beaucoup d'attentes et j'ai vu que même quand il a salué les chrétiens qui étaient rassemblés hier à la place Saint-Pierre, il a souhaité la paix. Donc, les mêmes mots que Jésus ressuscité avait prononcé devant les apôtres qui étaient enfermés à cause de la peur. Je pense qu'il va être vraiment apôtre de la paix. Il va, avec sa position, il peut plaider pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Donc, ces votes-là, pour nous, les catholiques, nous percevons cela comme une action de l'Esprit Saint, parce que là, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de CENI, il n'y a pas de... Donc, c'est une élection particulière où c'est l'Esprit Saint qui guide tout et nous pensons qu'il va beaucoup travailler pour le rétablissement de la paix au monde. Nous sommes agités au Congo, il y a des problèmes en RDC, il y a des problèmes entre l'Inde, le Pakistan, il y a Israël, le Palestine, Ukraine, Russie. Donc je pense qu'il va vraiment faire beaucoup de choses pour amener les dirigeants du monde à œuvrer pour la paix.
Merci beaucoup, Timothée Tchao Mosucha. Le pape Léon XIV, il est américain, il est d'origine américaine. À votre avis, ça pourrait être quoi l'enjeu de l'élection d'un pape par rapport à son pays d'origine?
Oui, c'est exactement le contexte dans lequel j'aimerais abonder, au-delà du fait de deux intervenants qui ont abordé la question sur le plan religieux, mais aussi sur le plan social à travers le monde, question de la paix. Mais il faut dire que c'est un pape qui à l'époque, il était cardinal, bien je crois, de Californie. Il a eu le mot très dur contre le vice-président américain, l'actuel, qui est avec son président Donald Trump, dont l'extracisme de minerais, des deals miniers, dans l'expulsion des migrants, etc. Alors que, vous savez, le souverain pontife vient du mot pont. Lui, il a dit clairement que c'est pas la politique que Dieu a recommandée, parce que vous savez que la devise des Américains, leur destinée manifeste comme si c'était un peuple qui vient de Dieu. Si vous êtes un peuple nous sommes un peuple qui vient de Dieu, mais la politique que vous voulez appliquer aux États-Unis, la politique d'exclusion, c'est une politique qui ne vient pas de Jésus. Jésus a rassemblé le monde, quelles que soient les races, etc. Donc, il y aura un bras de fer entre ces présidents jugés, je veux dire le cardinal, qui est un chef d'État, le souverain pontife est un chef sur l'État à part entière, l'État du Vatican. Il se pourrait qu'il y aurait un bras de fer avec l'administration Trump lorsqu'on sait qu'il est un petit peu proche de Joe Biden et qu'on pourra même voir dans son investiture la présence de Joe Biden qui prendra peut-être une très très bonne place. Donc, à mon avis, ce chef d'État va avoir un regard sur son pays, mais aussi par rapport à l'Église qui a abandonné sa mission pour entrer en politique, abandonnant la mission d'aller faire des disciples des gens d'entre toutes les nations. Donc, on va voir les réformes qu'il va apporter. Et moi, j'ai tiré mon attention pratiquement sur les questions géopolitiques et géostratégiques.
Merci. On l'a vu, Robert Francis Prévost a changé de nom au début de son pontificat. Il devient Léon XIV, donc la tradition catholique a été respectée. On prend une petite pause en écoutant justement les traditions de Julio Iglesias et on se retrouve juste après.
Les traditions qui nous enchaînent nous ont fait vivre trop longtemps ensemble. Dans la grisaille quotidienne, avec les mots qu'on fait semblant d'entendre. Entre ces soins et vagues à l'âme, ne pas vouloir d'une autre vie plus libre. Parce que l'on est mari et femme, et qu'un papier nous interdit de vivre. On n'a pas su se dire à temps, il faut se quitter. Au grand poker des sentiments, on a trop bien triché. Les traditions qui nous enchaînent nous ont forcé à refuser la chance de dire enfin de vrais je t'aime et de chanter enfin de vrais romances. Sous les reproches du silence, sous nos regards indifférents, elles vivaient. Nous n'étions plus que des absences, marchant ensemble vers les temps de rire. On n'a pas su se dire à temps, il faut se quitter. Au grand poker des sentiments, on a trop bien triché.
C'était les traditions de Julio Iglesias. Julio Iglesias, cet artiste musicien, compositeur, chanteur d'origine espagnole qui n'est plus à présenter. On revient à l'actualité de cette semaine. L'État congolais a créé 53 établissements publics non budgétisés durant le premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, a révélé la semaine dernière l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Actuellement député national, il s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview accordée à la journaliste Paulette Kimuntu. Nicolas Kazadi s'interroge sur les conséquences financières de ces nouvelles structures créées sans prévision budgétaire et entraînant des recrutements sans cadre limite. L'ancien ministre fustige et la mauvaise gestion des finances publiques qu'il considère comme un frein au développement du pays. C'est la culture congolaise et nous aimons beaucoup la jouissance dès que l'argent est disponible. Nous nous partageons d'abord, nous réfléchissons après. Nous nous donnons des salaires, nous nous distribuons des primes et nous réfléchissons après, a affirmé l'ancien argentier national. Timothée Tchaoumbosucha, vous êtes journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Vous êtes coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Vous êtes aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Vous avez souhaité nous parler de ce que vous appelez les révélations de Nicolas Kazadi. On vous écoute.
Oui, Monsieur Guimaté, ce n'était pas étonnant pour moi parce que je l'ai dit depuis un certain nombre d'années. Depuis 2021, je fais énormément de révélations sur la gestion, notamment des équipements militaires de l'armée, de tout ce qui a la coopération de certains domaines, notamment au niveau de la police, etc. Mais ici, Nicolas Kazadi, qui vient succéder un petit peu à ce que Jean-Marc Kabound était en train de révéler et qui lui a coûté la prison. Si je m'étais intéressé à Nicolas Kazadi, pas par le fait de ces révélations que je connaissais, mais surtout sur le profil de la personne. Il faut savoir que d'abord c'est un argentier, un parfait argentier, dans le rouage économique, parce que de l'université de Kinshasa à celle de Marien Gwabi à Brazzaville, et puis à Reims dans les Ardennes en France, il a étudié la macroéconomie, la micro et la macroéconomie. Et puis il va aller à Sorbonne, là où il aura une maîtrise toujours en économie. Il va revenir au pays parce qu'il est en exil. Mais il faut savoir que c'est un ancien membre de l'UDPS. Donc à la Banque Centrale, il a été à la réforme monétaire, à la Banque Africaine de Développement. Il a été au programme des Nations Unies pour le Développement appelé PNUD pendant 15 ans, où il a été conseiller des unités stratégiques et politiques, notamment en Guinée, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Madagascar, avant de rentrer au pays pour être, en 2021, ministre des Finances. Donc l'argentier, c'est quelqu'un qui connaît le rouage des projets financiers, des politiques monétaires. Et voilà, cette personne est proche de la famille du président Tshisekedi, le docteur Tshisekedi, d'abord Étienne Tshisekedi, et ensuite de Félix Tshisekedi. C'est parmi les gens qui, à l'époque où l'UDPS était encore à l'opposition, finançaient le parti, bien qu'étant dans des structures internationales, etc., finançaient dans l'anonymat le fonctionnement de ce parti. Voilà le profil de la personne, et donc son background, sa famille politique, c'est un membre de l'Union Sacrée, parce que sa famille UDPS est de l'Union Sacrée, ils sont au pouvoir. Ces révélations attestent énormément des choses. C'est un scandale qui, sous d'autres sujets, j'ai appris qu'il a été rappelé de Mbujimayi, qu'il a été entendu cette nuit, puis ensuite reconduit chez lui. Et au moment où nous tournons cette émission, il se pourrait qu'il ait en audition. C'est une information à confirmer. Donc, moi, ce n'est pas ça le problème. Et ici, en les disant, je ne voudrais pas faire un procès de l'innocenté ou de l'inculpé. Bien que sous d'autres informations, on dit toujours qu'on vole pour les chefs, mais c'est un technocrate. Quelles sont les conséquences de ces révélations? Premièrement, il faut savoir que la RDC, qui voudrait, dans le premier mandat du président de la République, le chef de l'État a beaucoup peiné pour trouver le financement. Voilà, le financement, il y a eu même des restructurations, le regard du programme des Fonds monétaires internationaux. Et donc, les révélations d'un ancien cadre des institutions internationales, qui est un monétariste, était un financier, un économiste, a des conséquences sur toute autre question diplomatique liée aux investissements en République démocratique du Congo. Parce que ces accusations vont directement contre le président de la République, qui, de mon point de vue, est le président Tshisekedi est très clivant, parce que vous pouvez tout discuter.
Justement, Timothée Tchao Mosoucha, vous avez affirmé que ces révélations de l'ancien ministre Nicolas Kazadi sont contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il y a cet analyste indépendant qui a réagi mercredi dernier dans le journal La Prospérité avec ce titre « Halte à la manipulation, jouissance ». Nicolas Kazadi a parlé d'une problématique générale en RDC et non d'une stigmatisation du pouvoir en place. Pour cet analyste, on aurait sorti les propos de leur contexte pour leur donner une connotation anti-pouvoir en place. Timothée Tchao Mosoucha, comment vous réagissez à cette analyse?
Non, cet analyste, je ne porte pas un jugement, mais il est totalement à côté. Le contexte est que ministre, monsieur Kazadi, le député national Kazadi, parle de sa gestion en tant que ministre des Finances. Il ne faut pas commencer à embrouiller les gens. C'est de 2021, je crois, en 2024. Donc, il parle du mandat, de la mission qu'il a eue et ce qu'il a vécu en tant que patron du ministère des Finances. Et il a parlé clairement de l'entourage, pas de Joseph Kabila, pas de Laurent Désiré Kabila de Mobutu, il a parlé de l'entourage du président Félix Tshisekedi. Donc c'est de ça qu'il s'agit, donc il n'est nullement pas question de la politique générale de corruption qu'il y a, non, il parle de leur régime dans lequel il était ministre des Finances,
Et Janelle Innocente parle en disant, parce que même le dossier Lampadaire, etc., etc. Vous savez qu'à la présidence de la République, sous Tshisekedi, il y a 33 structures à la présidence de la République. Et lorsque vous prenez le budget annuel, les dépassements budgétaires à la présidence, c'est 200%, 300%, 400%, parce qu'il y a des structures. Et dans les structures et dans les documents et les projets qui viennent de la présidence de la République, qui font à un moment donné comme un gouvernement parallèle, c'est toujours des sorties en mode d'urgence qui contournent toutes les procédures de décaissement. Allez lire de façon indépendante les rapports de l'ODEP qui sont en 2021, 2022, 2023. Donc nous sommes là devant une situation où l'argent tombe. Je peux vous donner un exemple pas banal, mais inédit. Le RAM n'a été ni impôt ni taxe. Mais c'est des milliards qui sont partis. Et c'est parti où? Dans les poches de qui? Ce sera la question. Vous voyez, c'est des questions comme ça. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la personne du président Tshisekedi, mais tout simplement parce que le président Tshisekedi a incarné les aspirations de notre peuple. Mais que le fils d'Étienne Tshisekedi arrive au pouvoir, que son régime soit caractérisé par des scandales de cette nature, où Nicolas Kazadi parle très clairement, c'est un technocrate. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas politique, lui,
merci.
C'est un technocrate.
Merci,
il a dit les choses clairement, et donc je crois qu'il s'est assumé.
Merci, Maître Dene Bintou Iragim de Kereza, présidente de la Société Civile du Sud Kivu. Vous êtes chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la Société Civile. Vous êtes également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Le mérite de la sortie médiatique de Nicolas Kazadi n'est-elle pas d'avoir dit une vérité qui certes peut blesser, peut choquer certaines personnes, mais qui constitue une interpellation, n'est-ce pas, à l'endroit des décideurs pour que ceux-ci se remettent en cause?
Oui, Guy, je pense que c'est très honteux pour notre République. C'est décevant, c'est troublant de voir une telle révélation que je qualifie de gravissime. Pourquoi? Parce que par rapport à son contenu, ça montre la manière dont notre pays est géré. Vous savez, l'opposition a pris le pouvoir. Elle a promis monts et merveilles au peuple congolais pour dire voilà, le régime précédent, c'est un régime de corrupteurs, c'est un régime où il y avait le clientélisme, ainsi de suite. On pensait vraiment à la rupture avec les mauvaises habitudes du passé. Mais voilà que les révélations sont en train d'être faites. À entendre les profils tant vantés par mon prédécesseur, j'ai pensé que Nicolas Kazadi allait faire aussi mieux pour notre République parce qu'il a géré. Il a été ministre. Vous avez même suivi toute l'histoire autour de les projets là de lampadaires et d'addiction d'eau et ainsi de suite. On a condamné certains, mais lui était épargné. Sur lui aussi pèse beaucoup d'indices de culpabilité en matière de détournement d'argent, pendant que nous, dans la partie est de la RDC, nous faisons face à une agression. Il y a des problèmes, les Congolais sont sur eux tous les jours. Vous connaissez que nos militaires travaillent dans des conditions indescriptibles, de même que les policiers, les enseignants, les infirmiers, les médecins. Bref, il y a toute une grogne sociale. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui se permettent de créer des histoires, de dépenser l'argent du peuple pour la famille ou pour je ne sais pas quel motif. Donc pour moi, je pense que c'est une honte pour la République, mais ces révélations-là ne doivent pas aussi le dédouaner par rapport à tout ce qu'il a été comme ministre des Finances. D'autre part, je pense que vous avez suivi aussi qu'on a remplacé le tout-puissant inspecteur des Finances à l'IGF. Peut-être demain ou après-demain, Gilles Alinguette aussi va faire des révélations. Parce que vous avez suivi, à un moment donné, il y avait beaucoup de révélations aussi, des choses horribles qui ont été révélées par l'IGF, mais les sanctions ne suivent pas. Donc on comprend que c'est tout un système qui est pourri et que ça fait la honte du pays. On ne peut pas se faire respecter comme ça à l'extérieur, à savoir qu'on est un pays pauvre, mais il y a d'autres qui s'enrichissent de manière tout à fait illicite. Mon prédécesseur a aussi parlé du cabinet du président de la République et des commissions créées. C'est vraiment un parallèle et c'est là ce qui justifie toujours des dépassements budgétaires. Et je pense que ça doit interpeller. On doit quand même respecter les Congolais qui payent les impôts, qui payent les taxes. Notre pays regorge d'énormes potentialités, mais qui ne profite qu'à une seule classe politique. Je pense qu'il est temps de changer. On ne peut pas se faire respecter comme ça, tant à l'intérieur du pays, tant à l'extérieur du pays. Donc, c'est des choses qui doivent être éradiquées vraiment. Et on ne sait pas d'où finalement nous viendra le salut, parce qu'on a les thèses, on a les gens qui ont de l'expérience, qui ont travaillé dans des firmes internationales. C'est une fois au pays qui font juste le contraire de ce qu'ils ont appris à l'école. Et on a des campagnes électorales au cours desquelles on promet monts et merveilles, mais à la fin, quand on est au mangeoir, on retombe dans les mêmes erreurs. Et c'est le peuple congolais qui continue à souffrir.
Merci.
Et c'est énervant.
Merci, on a compris. Ambroise Mamba, vous êtes journaliste à Congo Web, télévision, une chaîne privée qui émet depuis Kinshasa. C'est quoi votre analyse par rapport à ces révélations faites par l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi?
Bon, merci Kimote. Mon analyse n'est pas un peu différente de celle faite par M. Kimote. Je remercie d'ailleurs M. Kimote parce que il a quand même assez détaillé le profil de Nicolas Kazadi, son statut qui est assez un peu riche, mais je trouve que Nicolas Kazadi a un problème d'éthique, un problème d'éthique assez important. Nous venons de connaître l'élection du pape. Vous voyez, avant que les cardinaux n'entrent dans la chapelle Sixtine, ils ont prêté serment. Un serment sur deux choses. La discrétion et la communication avec le monde extérieur. Vous ne devez pas communiquer avec le monde extérieur et vous devez rester discret. La discrétion renvoie à quoi? Ça renvoie à ceci. Lorsque vous allez voir même quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne le dites à personne. C'est ça le problème d'éthique dont je parle ici par rapport à Nicolas Kazadi. Vous êtes à ce niveau-là et vous jetez en pâture tout un système, tout un régime. Il est vrai que les informations qu'il a mises à notre disposition, nous les connaissions déjà, M. Timothée a dit, que nous connaissions déjà toutes ces informations-là. On n'avait pas besoin de son concours pour nous les dire. Mais le dire, jette en pâture tout un régime. En fait, il est en train de vouloir se faire blanchir. Il entre dans une blanchisserie politique en rejetant ses propres tares, mais en dénonçant les tares des autres. C'est effectivement ça. Lorsqu'il prend, je vais prendre un aspect seulement, lorsqu'il parle tout simplement de la jouissance, il dit l'argent des projets arrive, nous le partageons, nous le mettons dans nos poches et nous allons réfléchir après. Et est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Les projets qui doivent être réalisés ne les sont pas parce que les gestionnaires se sont partagés l'argent de ces projets, ils en ont joui et ils ne vont même pas réfléchir. Parce que lorsque vous allez les appeler pour réfléchir sur les projets, ils vont vous dire non, l'un va vous dire qu'il est aux États-Unis, l'autre va vous dire qu'il est en France, l'autre va vous dire qu'il a voyagé à Dubaï, et ainsi de suite. Vous n'aurez jamais tout le monde autour de la table pour réfléchir par rapport à la réalisation de ces projets. Et ce sont ces projets qui ne seront jamais réalisés. Et si ces projets ne sont pas réalisés, les Congolais vont pleurer. Donc le ministre des Finances met à la place publique le fait que les dirigeants actuels ne peuvent pas réaliser des projets à impact visible parce qu'ils ne réfléchissent pas. Voilà ce qu'il a voulu nous dire. Mais lorsqu'il nous le dit, il y a, vous avez fait allusion à quelqu'un qui a fait une analyse dans le journal La Prospérité, qui a dit non, la jouissance en question, c'est un problème culturel, ça n'a rien à voir avec une attaque au pouvoir, mais ça, il a joué, cet analyste a joué à la défensive. Il a joué à la défensive parce qu'il a vu que les déclarations faites par Nicolas Kazadi sont d'une gravité extrême, qu'il faut maintenant les sauver. Et là, il ne peut pas les sauver, parce que là, il a jeté en pâture tout un système, tout un régime, il a joui de ce système, et puis il joue une autre carte, et à ce moment-là, il est inculpé, même si M. Timothée a dit qu'il ne peut pas l'inculper, ni l'innocenter, mais il est vraiment inculpé. Si, effectivement, au moment où nous tournons cette émission, il est auditionné au niveau du Conseil national de sécurité, bien entendu, il faut qu'il nous dise un peu clair. Alors,
L'autre chose, c'est quoi au fait? Bien évidemment, le président de la République a eu à le choisir pour travailler avec lui, mais là, il semble nous dire que non, l'entourage du chef de l'État, le chef de l'État n'est pas bien entouré, pourtant c'est le chef de l'État lui-même qui doit choisir ses propres collaborateurs. Et lorsqu'il dit qu'il n'a pas un bon entourage, il veut dire tout simplement que le chef de l'État n'a pas fait un bon casting. C'est vrai, ce sont des bonnes informations, ça nous réjouit du fait que nous avons enfin la confirmation des éléments que nous avions sous forme des rumeurs, ainsi de suite. Nous avons enfin la confirmation parce que c'est quelqu'un de la boîte qui nous l'a dit. Mais grosso modo, c'est un problème d'éthique. Un problème d'éthique pour un responsable à ce niveau-là, avec tout ce que M. Timothée a dit, c'est un problème d'éthique. Il faudra pas encourager ça. Ce n'est pas une bonne chose que ça vienne de ceux qui ont joui pour se faire blanchir. Ils dénoncent l'état du pouvoir pour se faire blanchir. Et là, c'est de la responsabilité des Congolais, à savoir comment trier ces genres d'informations, comment les traiter et comment les consommer. Et lorsque les Congolais vont bien consommer ces genres d'informations, ces gens-là ne vont pas passer par une blanchisserie politique et faire rejeter tout un pouvoir. Je pense que les Congolais ont une grosse responsabilité dans cette affaire.
Oui, mais au-delà de tout ça, je pense que ça permet, ça peut être ça même le mérite, hein, ça permet aux décideurs de se sentir interpellés afin de se remettre en question. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 29 avril dernier, c'était l'anniversaire de naissance d'Alain Makaba. Alain Makaba, c'est chanteur, auteur, compositeur, arrangeur, guitariste congolais, l'un des membres fondateurs de l'Orchestre Wenge Musica. À cette occasion, on va écouter l'une de ses compositions intitulée Princesse Patty et on se retrouve juste après.
J'avais voulu que tu sois mon premier amour. Mes pensées sont toutes à toi et mon cœur, tu l'as déjà.
Bolingo yangana yo ebana, kala te ye ye ye. Bolingo yangana yo ebandisika, bamata kutu banimaka te keto koko visa bolingo yango. Ebana kiloko la lisano, papa rafutu baseke, banima bateke nana mwano.
Bye. Tomaya, Boya Mambo de Utepana Chipana Yawi, André de Fouquet, Péa de Vitinsal.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de l'élection du nouveau pape de l'Église catholique. Nous avons également analysé les révélations de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Participe à cette émission, Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, une chaîne privée qui émet depuis Kinshasa. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, président de la société civile du Sud Kivu, et les chefs d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchao Mosucha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Les États-Unis ont confirmé avoir reçu un projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'annonce a été faite lundi 5 mai par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain. Je salue le projet des propositions de paix reçues de la RDC et du Rwanda, a déclaré le diplomate américain sur son compte X. Il estime qu'il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes et a exprimé son espoir de voir les deux parties maintenir leur engagement en faveur de la paix. Ce projet d'accord survient à la suite d'une déclaration de principe signée le 25 avril dernier à Washington par la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Cette déclaration d'intention visait à poser les bases d'un accord global pour promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs tout en mettant fin au conflit qui ravage l'est de la RDC. Ambroise Mamba, vous avez souhaité nous parler de la déclaration des principes RDC-Rwanda, enjeux et bénéfices pour la RDC. On vous écoute.
Merci Guy Maté. J'ai voulu parler de la déclaration des principes. Pourquoi ? Parce que la RDC est en guerre. La RDC est en guerre avec un pays belliqueux, un pays qui agresse la RDC depuis 30 ans, avec une ambition expansionniste. Avec une visée expansionniste, le Rwanda est à la recherche d'un espace vital. Mais le Rwanda a un casus belli, une déclaration de guerre basée sur trois prétextes fallacieux. Trois prétextes qui aujourd'hui sont déjà vidés de leur substance. C'est la question des FDLR, c'est la question des minorités Tutsi et la question des réfugiés congolais vivant au Rwanda. Son casus belli est basé sur ces trois prétextes. Et le Rwanda est à la recherche d'un espace vital au Congo. Il a fait la guerre depuis 30 ans, et cette fois-ci, à travers les supplétifs du M23, l'AFC, le Rwanda est quand même parvenu à occuper les villes de Goma et Bukavu. La guerre était en train de produire beaucoup de dégâts à travers les territoires congolais, il y a eu beaucoup de morts. Et pendant ce temps, les gouvernements congolais n'arrivaient pas à riposter, à récupérer militairement les zones qui sont conquises par l'occupant. Alors, je voulais parler de la déclaration des principes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un débat national. Qui a gagné et qui a perdu ? Entre la RDC et le Rwanda. Lorsqu'on signe la déclaration des principes, il y a certains Congolais qui ont estimé que la RDC a perdu. Il y en a qui ont estimé que non, nous sommes encore floués par les États-Unis. Il y en a qui ont dit que non, le Rwanda a gagné. Ainsi de suite. Et moi, j'ai choisi de parler de cette question pour montrer combien c'est la RDC qui a gagné. Pourquoi la RDC a gagné ? Tenez. Il faut d'abord commencer par comprendre les rapports des forces. RDC-Rwanda, RDC-États-Unis, Rwanda-États-Unis. Au niveau des rapports des forces, sur les théâtres des affrontements, sur les théâtres militaires même, au niveau des rapports des forces, la RDC n'a pas été capable de récupérer militairement Goma et Bukavu. Et avec ça, on aurait pu assister à une occupation qui aurait pu se transformer en une balkanisation si on ne faisait pas attention. Une occupation qui allait durer. Et rappelez-vous que lorsque le même Rwanda avait soutenu la rébellion de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, le président Paul Kagame avait dit qu'ils vont réécrire Berlin. Réécrire Berlin fait allusion aux frontières héritées de la conférence de Berlin de 1885. Et l'ambition du Rwanda par rapport à ta recherche de l'espace vital est de réécrire Berlin en faisant la guerre à la RDC. Et maintenant que la RDC se tourne en bilatéral vers les États-Unis d'Amérique avec Washington pour signer un contrat minier pour la gestion de matières stratégiques dans le secteur minier justement, et pour que les États-Unis donnent la possibilité à la RDC de recouvrer sa sécurité, sa paix et de pouvoir récupérer les territoires qui sont conquis par l'ennemi, et je pense que la signature de la déclaration de principe est une grande victoire pour la RDC, une grande victoire pour les pouvoirs de Kinshasa. Pourquoi ? Parce que à ces moments-là, les frontières héritées de 1885 demeurent inviolées. Pourquoi ? Parce que dans la déclaration des principes, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le fait que le Rwanda qui est à la recherche de l'espace vital ne l'aura plus, parce que le Rwanda lui-même a accepté le respect de la souveraineté de chaque pays. On respecte la souveraineté du Rwanda, le Rwanda respecte également la souveraineté de la RDC. Ça, c'est une grande victoire pour la RDC. Je disais également qu'il y a un problème avec la gestion de ressources, la gestion des minerais. Il y a certains Congolais qui ont dit que non, c'est le Rwanda qui a gagné parce qu'on nous a imposé une gestion commune des richesses, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier une chose. Les États-Unis représentent une grande puissance économique dans ce monde. Les États-Unis, qui est en bilatéral avec la RDC, n'a pas voulu aller vers une diplomatie coercitive contre le Rwanda pour contraindre le Rwanda, étant donné que le Rwanda, c'est un ancien partenaire. Pas un ancien, il demeure un partenaire des États-Unis. Mais les États-Unis ont opté pour une démocratie nuancée, pas coercitive contre le Rwanda, en appelant les deux sur la même table. Et là, le Rwanda, en apposant sa signature sur la déclaration de principe, confirme effectivement que c'est le Rwanda qui a déstabilisé la RDC depuis tout ce temps. Et le Rwanda prend un engagement de ne plus déstabiliser la RDC et de l'accepter, de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la RDC. S'ingérer dans les affaires intérieures de la RDC, pourquoi ? Parce qu'il y a ce problème de la minorité Tutsi. Et le Rwanda pense avoir le droit d'interférer dans les affaires de la RDC pour déclarer la guerre à Kinshasa. Et je pense qu'en signant cette déclaration, le Rwanda a reconnu ce qu'on lui reproche. Et bien évidemment, c'est une grande victoire pour la RDC. Je vais vous dire une chose. Moi, mon avis à moi, c'est quoi ? Entre être un esclave d'un pays, d'un voisin, un pays du tiers-monde, d'un voisin du tiers-monde, et bénéficier de la protection d'une grande puissance reconnue mondialement, je préfère encore les États-Unis que le Rwanda.
Merci.
Donc, dire aujourd'hui que la RDC a bradé les richesses, c'est une accusation gratuite, justement, des gens qui sont frustrés par le fait que le président Tshisekedi a récupéré une situation parce qu'ils entendaient arriver à Kinshasa, marcher sur Kinshasa,
merci,
et renverser un pouvoir. Et là, ils ont compris qu'ils ont échoué.
Merci. Maître Dene Bintou Iragim de Kereza, s'il arrivait que grâce à cet accord en cours de discussion entre le Rwanda et la RDC obtient effectivement la paix, est-ce que c'est pour autant que nous allons obtenir aussi de manière durable la fin de la crise multiforme qui déchire ces pays depuis plusieurs années?
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Moi je pense que par rapport à cette question, il y a à boire et à manger. Pourquoi je l'ai dit, nonobstant les efforts diplomatiques du gouvernement, la volonté du président de la République et tout ce qu'on peut dire pour chercher la paix dans notre pays, il y a cette question des Américains. Vous savez, il y a des choses que les Congolais ne connaissent pas peut-être. La société civile du site Kivu a s'adressé au président Trump depuis le mois de janvier à travers une correspondance. Et dans cette correspondance, nous avions fait allusion à une ordonnance exécutive présidentielle numéro 13-413 du 27 octobre 2006 qui avait été signée par le président George W. Bush pour dire que la situation sécuritaire en RDC constituait une menace pour les États-Unis. En principe, avec ça, là, on pouvait se frotter les mains et dire que les États-Unis pourraient être une solution pour la sécurité dans notre pays et partout de la sous-région en général. Parce que lorsqu'il y a la paix en RDC, les autres États transfrontaliers, le NEF, peuvent aussi respirer. Et maintenant que nous sommes en guerre, les autres pays transfrontaliers, le NEF pays, ne sont pas aussi en paix. Ils gèrent les réfugiés, les exilés, ainsi de suite. Ce n'est pas une bonne chose pour la région. Parce que tous ces processus, comme on aura peut-être à le dire dans les points qui suivent, on ne connaît pas les enjeux, les dangers de tous ces accords-là. On n'implique pas l'Assemblée nationale, on n'implique pas le Sénat. Pourtant, il s'agit de parler du peuple congolais, il s'agit de l'avenir de notre pays. Et donc, si ce processus, pour nous, doit continuer, il faut qu'on implique quand même les parlementaires qui nous représentent. Parce que si nous, le peuple congolais, on ne peut pas arriver aux États-Unis, en gros, qu'on ne sait pas pourquoi on cherche toujours à écarter la société civile dans toutes ces discussions, au moins engager les parlements. Parce qu'il s'agit quand même de la nation congolaise. Bien sûr, le chef de l'État représente la nation, on ne refuse pas. Mais le chef de l'État est une institution autant que le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc c'est là seulement notre souci, nous, de la société civile. On voudrait que chaque processus qui doit être décidé au nom du peuple congolais, que le peuple congolais soit formellement représenté dans ces assises-là. Alors, l'autre chose, vous avez parlé des minerais. Oui, jusque-là, il y a un problème, parce qu'on a signé l'accord de principe, mais je vous apprends, le même jour qu'on a signé l'accord de principe, deux jours après, la FCM23 a conquis d'autres localités au sud de Kivu et a menacé même de reprendre Walikale et ainsi de suite. Alors, moi, je me pose la question, mais est-ce qu'on est sincère dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre comme initiative? Pendant qu'on signe, mais il y a des choses qui ne marchent pas au terrain. Et donc, on se demande, on est dans quoi, qui trompe qui, mais aussi la question de justice par rapport à tout ce qu'on a commis, on a subi comme horreur pendant les 30 ans. Parfois, dans les différentes négociations, on n'en parle pas. On ne peut pas avoir une paix sans justice.
Merci, Timothée Tchao Moussoucha. C'est quoi votre regard par rapport aux enjeux de tout ce qui s'est fait à New York avec officiellement comme objectif ultime de ramener la paix dans la partie est du pays?
Et ce que les gens oublient, c'est que la genèse de la présence même du Rwanda là-bas, il faut rappeler aux gens que c'est le président Zelensky qui est allé aux États-Unis et Donald Trump a sorti son idée d'un deal minier. C'est comme ça que Kinshasa a sauté sur l'occasion pour faire le bilatéral. Et effectivement, Kinshasa voudrait du bilatéral. Cher Ambroise, nous ne sommes pas en bilatéral. Nous sommes maintenant devant une table où on est allé chercher le bilatéral et les États-Unis ont sorti derrière la porte le Rwanda. Du coup, ça devient un accord de principe. Un accord de principe sur les relations internationales, c'est d'abord un accord qui définit des grandes lignes, des squelettes, des accords qui vont venir. Mais moi, à mon regard, c'est qu'on a tout donné au Rwanda. Il n'y a ni justice sur tout ce qui a été commis en RDC. Il n'y a pas réparation, il n'y a pas de sanctions. On est passé sur les deals miniers. Et le deal minier, c'est avec des privés américains. Ce n'est pas avec l'État américain. Seulement, la signature du département d'État américain est une caution, une sorte de garantie par rapport aux ressortissants américains, aux grands groupes américains qui vont investir dans le Kivu, avec l'État congolais. Sauf qu'à Kinshasa, tout est centré, les institutions ne sont pas au courant, ni le Parlement, Madame l'a très bien dit, ni le Parlement, ni le Sénat. Ça pose problème. Ambroise a parlé de l'attitude expansionniste du Rwanda pour la balkanisation. En même temps, au même moment que Tshisekedi est en train de chercher à arracher sa protection, la protection de son pouvoir par Washington, le Rwanda signe avec les États-Unis un protocole d'accord pour accueillir les migrants, et je veux dire les migrants ou les rejetés des États-Unis au Rwanda.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Chéri Badé avec Tantine Abeti Masikini. Avec Abeti Masikini. Je rappelle que nous avons dans cette émission Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, une chaîne privée qui émet depuis Kinshasa. Maître Néné Bintou Yiragi Mudekereza, présidente de la société civile du Sud Kivu et le chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile et également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simbama Congo. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve, en Belgique, Timothée Tchaombo-Soutcha, il est journaliste indépendant et spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi expert en stratégie et sécurité internationale, médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Les processus de Doha au Qatar réunit les gouvernements de la RDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, tandis qu'un autre cadre des négociations entre Kigali et Kinshasa se déroule sous l'égide des États-Unis. Ajouté à cela, la médiation pilotée par l'Union africaine à travers le président Faure Gnassingbé, médiateur désigné. Maître Néné Bintou Iragin de Kereza, vous avez choisi de nous parler de la multiplicité des médiateurs dans les différents processus de paix avec cette question: pour quelle issue favorable pour le retour de la paix en RDC? On vous écoute.
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Si j'ai choisi ce thème, c'est par rapport à la confusion qu'on a actuellement dans nos têtes par rapport à cette multiplicité des processus et des médiateurs. Au départ, il y a eu le processus de Luanda qui a débuté avec une feuille de route depuis novembre 2021, parce qu'il y a eu, quand le M23 a ressurgi, il y a eu cette volonté manifestée par l'Union africaine de vouloir normaliser les relations entre le Rwanda et la RDC. Ensuite, il y a eu le processus de Nairobi qui a débuté en avril 2023. Et les deux là, on ne sait pas, on les a fusionnés récemment. Du coup, il y a aussi Doha qui s'est invité dans le processus. On a vu nos deux chefs d'État, rien n'a filtré. On a appris par la suite qu'on a invité les éléments de M23 AFC à Doha, et qui ne s'était pas présenté à Luanda. Et du coup aussi, c'est l'accord de principe au niveau des États-Unis. Mais par la même occasion aussi, il y a le CC5O qui a le pacte social pour le rétablissement de la paix. Et donc, nous nous posons la question, d'où nous viendra le salut, d'où nous viendra la solution? Quels sont les enjeux derrière ces différents processus? Parce que jusque-là, les choses se gâtent au jour le jour sur le terrain. Alors nous voulons savoir quelle est la part du peuple congolais dans tout ça. Parce qu'il y a quand même ces cris de détresse par rapport à la réparation des crimes commis, par rapport à tout ce que les opérateurs économiques, les banques, les épargnants ont connu du fait de la guerre et continuent à connaître du fait de cette guerre. Il y a vraiment beaucoup de dégâts collatéraux qui sont mis de côté parfois quand on discute de ce genre de questions.
Merci.
Et ça fait qu'après un temps, on signe des accords qui ne sont pas respectés. Les églises se reconstituent encore, ils font des groupes, ils constituent des groupes armés et à la fin, c'est un cycle infernal. Qu'on puisse nous clarifier les choses, on est dans quoi, on va où?
Merci.
Et qu'est-ce que le Conseil de sécurité dit par rapport à tout ça?
Merci Timothée Tchambo Soutcha. Comment vous également vous entrevoyez l'issue de la crise congolaise avec cette multiplicité des médiateurs que semble dénoncer Maître Néné Bintou Iragim de Kereza?
Oui, le processus va prendre fin par deux procédures. Un processus diplomatique, celui-là c'est au niveau de la résolution des conflits au niveau régional, c'est-à-dire entre le Rwanda, la RDC, le Burundi, dont le pays frontalier, parce que le président Kagame parle des FDLR qui menacent la sécurité dans son pays, mais également des réfugiés qui sont au Rwanda, qui doivent rentrer en République démocratique du Congo. Donc vous voyez que la médiation, que ce soit du Qatar comme celle des États-Unis, relève ce point. Mais la médiation du Qatar comme des États-Unis sont des mécanismes informels. Je le répète ici. Les deux mécanismes formels et le plus officiel, c'est le Conseil de sécurité qui s'était réuni et qui a eu une résolution, je crois, 27-73. Donc, ça, c'est le processus diplomatique. Il faudrait que les rencontres informelles qu'il y a aux États-Unis et qu'il y a à Doha puissent être endossées par l'Union africaine à travers Fournier Simbé, les médiateurs qui ont été désignés, afin d'enclencher un nouveau processus, cette fois-ci interne, pour la résolution du conflit interne. Parce qu'il faut savoir que le M23, on peut monter centre, le M23 est un mouvement congolais, mais soutenu par le Rwanda. Donc, le mécanisme diplomatique va viser la sortie des troupes étrangères, le mécanisme diplomatique va viser le retour des réfugiés, le mécanisme diplomatique va viser le plan des engagements de FDLR, et le gouvernement congolais s'était engagé là-dessus, depuis Luanda jusqu'à Dar es Salaam. Le deuxième mécanisme, c'est le dialogue congolo-congolais, qui, de mon point de vue, va être inclusif et sans condition, ou et qui sera donc dirigé par l'un des médiateurs que l'Union, je dis par l'équipe de médiateurs dirigés, désignée par l'Union africaine. Donc, c'est de cette façon-là que cette crise pourra être résolue, mais il faut dire aussi que le rapport de force va l'emporter sur le terrain. Si le M23 peut dire aujourd'hui, moi je suis pas concerné par ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça concerne le Rwanda et la RDC, mais nous avons des revendications que nous avons face au gouvernement congolais, et donc nous poursuivons notre avancée. Donc ça peut être aussi notre paire de manches. Vous savez que l'ancien président est lui aussi en diplomatie, il continue ce périple. Donc je crois qu'à un moment donné, avec le processus, la médiation des prêtres, nous arriverons à un moment donné à avoir un premier accord de principe congolo-congolais qui sera endossé par l'Union africaine et par les médiateurs, pour que finalement il y ait un dialogue autour duquel sera le pouvoir de Kinshasa ainsi que tous les autres belligérants, dont l'opposition armée, non armée, mais aussi la société civile. J'ai entendu Madame Mudereza se plaindre avec droit, parce que souvent les femmes sont exclues de différents processus ou minorisées. Mais nous rappelons, je ne cesserai de le rappeler, Madame Catherine Samba-Panza, c'est une femme qui a dirigé la transition en Centrafrique, pour qu'on ait les institutions qu'on a aujourd'hui, Archange Touadéra, etc. Donc voilà un peu comment je vois, de mon point Merci. De vue, la résolution du conflit congolais.
Merci Ambroise Mamba, on termine cette émission avec vous. Apparemment, les processus fusionnés de Luanda et Nairobi est en veilleuse. On a plutôt l'impression que ce sont les processus de New York et de Doha qui se sont imposés. Finalement, la solution à cette crise de la RDC ne risque pas de venir d'ailleurs et non des Africains.
Oui, mais M. Timothée l'a dit, ça relève des rapports de force, mon frère. Moi je trouve que toute la multitude des processus des pays Nairobi, Luanda, et ainsi de suite, relève de l'hypocrisie de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. Et dans les rapports de force, ces orientations ne sont pas respectées par le Rwanda qui agresse la RDC. Elles ne sont pas respectées. Et cette fois-là, on a trouvé fort que le Rwanda, on a commencé à Doha, rappelez-vous, de cette rencontre inattendue Kagame Tshisekedi dit à Doha, et c'est parce que Doha a investi et au Rwanda et en RDC, économiquement parlant, les deux partenaires de Doha avaient des choses des comptes à rendre à Doha, c'est comme ça qu'ils pouvaient se retrouver là-bas. Et ça, c'est au niveau des rapports de force. Et quand vous prenez les États-Unis qui interviennent parce que la RDC est allée chercher cette relation en bilatéral, sachant tout de même que le Rwanda continue à être partenaire des États-Unis, et ça veut dire que ces rapports de force vont agir cette fois-là pour trancher justement la crise. Il y a effectivement ce que M. Timothée vient de dire, qu'il faudrait que ces accords soient endossés par l'Union africaine, bien entendu. La mouture de l'accord a été réceptionnée par les États-Unis d'Amérique. Il faudra qu'on puisse le signer et cette fois-là, on saura comment évoluer. Mais lorsque vous avez le M23 qui poursuit son avancée, et bien entendu, j'ai entendu Madame Néné se plaindre par rapport à ça. Moi, je comprends ça comme une manière de faire monter les enchères de la part du M23 et de l'AFC, parce que ils ont été qualifiés de supplétifs, des pantins du Rwanda, et cette fois-là, le Rwanda pourrait trouver son compte dans cet accord qui sera signé aux États-Unis. Le Rwanda pourrait abandonner ses supplétifs de l'AFC M23. C'est comme ça qu'à leur niveau, pour faire monter les enchères, ils donnent l'impression de continuer la guerre. C'est un message en direction des Doha et de Washington. Pour que les deux capitales puissent intervenir au niveau de Kinshasa, parce que l'option de Kinshasa, c'est que ces gens-là doivent répondre de leur date. Que ce soit Nanga, que ce soit Kabila qui est d'une manière ou d'une autre incriminé, pour Tshisekedi, ils doivent répondre de leurs actes. Et c'est comme ça qu'ils se comportent de cette manière pour faire monter les enchères. À ce moment-là, on envoie un message à Washington. Washington va revenir vers Kinshasa à travers peut-être l'Union européenne. Cette fois-là, on va dire que vous allez tenir, c'est pas moi, un dialogue national. Entre vous, vous allez vous entendre. Vous prenez une amnistie en faveur de toutes les personnes que vous avez condamnées à mort. Vous leur restituez leurs biens. Peut-être, je suis en train de m'imaginer ce scénario-là. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que l'M23 est en train de se comporter de cette manière-là. Mais je voudrais revenir un peu, parce que je suis en train de finir, à ce que M. Timothée a dit. Nous sommes allés en bilatéral, mais les Américains ont fait venir à la table le Rwanda. Mais Monsieur Timothée, vous savez, vous connaissez bien ce principe que les rapports entre les nations sont soit belliqueux, soit pacifiques. Et lorsque ces rapports sont belliqueux, les nations les plus faibles s'inclinent devant les nations les plus puissantes. Et sur le plan des rapports des forces, nous, on n'a pas eu la possibilité de récupérer les zones qui sont conquises par l'occupant. Mais cette fois-ci, nous sommes allés vers les États-Unis. Et bien entendu, on va trouver ce qui est faisable, ce qui est prenable. Au lieu de perdre tout,
merci,
nous prenons quand même ce qui est prenable, et bien entendu, pour que nous puissions recouvrer la paix, recouvrer l'intégrité territoriale. Et au sujet des réfugiés qui vont être déportés, bien entendu, c'est une crainte. Moi également, j'ai mis une crainte, mais je ne voudrais pas qu'on puisse supputer, qu'on attende l'accord qui sera signé. Bien entendu, le Rwanda est à la recherche d'un espace vital, mais dans son petit espace, il peut héberger ce genre de réfugiés, la déportation là. Mais par rapport à l'accord, attendons l'accord, et puis on verra ce qu'il y a dedans pour évoluer avec nos analyses.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci aussi à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Maître Néné Bintou Iragim Dekereza, Timothée Kaombo Soucha et Ambroise Zemamba. Merci aussi à Pierre Diassinois qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebojangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Inoubliable, cette autre composition d'Alain Makaba avec la voix de Dindo Yogo et on se retrouve le samedi prochain.
Ezala kana bomwana ba sentiment ya chéri lelo itikala elebo mapanzo mangai manso makeise pana ye lelo yo bode mutu nakosuka boli lelo yo wanya pataki nakosala gini lelo yo wese poka. Bandise kolela na nyokwa mi motema kaka boye na koma se kolota lota sheri yeye na keila keina ngana mboka mufaya na koma solo zuba. Kolela koye na mitumi soki osala nini ya kope na mipesa mobima na yoye na keina keina ngana mboka mobaya na koma solo zuba ya kolela koye na mitumi soki osala nini ya sirene koye Sali sali so oye, to tikala se bongo kiloliwa.